Oui, c'est le choix de notre invitée Marie-Laurence Rancourt. Bonjour Marie-Laurence.
Bonjour.
Pourquoi Janis Joplin?
Ah, je sais pas, j'y ai pensé tout de suite quand vous m'avez lancé l'invitation à choisir la musique. C'est l'été, il fait beau, il y a un vent de liberté dans cette chanson, des choses quand
Oui.
même qui. Il y a du soleil, il y a de la. Voilà, il y a la, on dirait qu'il y a quelque chose, comme on pourrait prendre un train pour une destination inconnue et pas rentrer. Il y a ça dans cette
Pourquoi
chanson.
pas?
Voilà.
Et qui vous a fait découvrir Janis?
Ah, ça doit être dans une émission de Laure Adler à la radio.
Ah, oh, est-ce que vous suivez l'heure bleue?
Ah oui, quotidiennement. Donc là, je vis
J'adore.
un petit deuil avec l'annonce du retrait de l'émission à
Oh,
partir
ça, je ne savais
d'automne. Ah
pas.
ben, on vit un deuil en direct. Donc, parce que quand on aime bien la radio, Laure Adler étant une grande femme de radio qui, justement, moi, m'a beaucoup inspirée, puis en a inspiré plusieurs, évidemment. On est touché par
Ah
la
oui,
disparition d'une voix
vraiment.
comme celle-là. Donc, voilà, on
Ah,
va
mais c'est une
vivre la
triste
dispersion de l'heure
nouvelle.
bleue.
Alors, on partage cette passion de la radio et la radio sera au cœur du théâtre, au théâtre Espace Go, à partir de demain, comme je le disais tantôt. Et donc, la pièce, votre pièce, puisque c'est vous qui l'avez écrite et c'est vous qui l'avez mise en scène, L'écoute d'une émotion, très beau titre.
Merci.
Pourquoi ce titre? On sent que oui, il y a un lien avec l'écoute, avec la radio, étant donné qu'on parle d'écoute ici.
Ouais, c'est le titre est arrivé tellement tôt. Il y a des choses, des moments comme ça où ça s'impose. Je me souviens que c'est une phrase empruntée à Pascal Quignard dans un de ses romans qui a cette phrase, l'écoute d'une émotion égare absolument. Au départ, c'était ça d'ailleurs le titre. Je trouvais cette phrase extrêmement belle et résonne énormément avec non seulement la radio, mais elle a un aspect intense, elle a un aspect, ouais, pour moi,
Riche,
oui,
profonde.
puis l'écoute d'une émotion, en tout cas pour cette pièce que vous découvrirez, il me semble qu'il n'y a pas meilleur titre. Il y avait quelque chose, évidemment, de radiophonique dans le titre même, et puis il y avait quelque chose de tellement sensible de se mettre comme ça à l'écoute. Il me semble que ça décrivait aussi bien la radio,
Oui,
l'écoute d'une émotion.
parce que ça
Ouais.
peut être aussi cliché quand on dit écoute tes émotions.
Bien sûr, c'est pas du tout le sens de ce
Non,
titre
non.
exact.
OK. Alors, on peut vraiment écouter une émotion, selon vous, Marie-Laurence?
Je pense que bien, oui, bien sûr, on peut écouter une émotion. Je pense qu'il y a quelque chose. Je pense ouais, par-delà justement la notion un peu psychologisante d'écouter ses émotions, ce qui n'est pas du tout le sens pour moi de cette phrase-là. Au contraire, c'est l'invitation en tout cas qu'on lance au spectateur de venir à la fois entendre une femme qui se met à l'écoute de ses émotions, en fait, écouter ses ressentir. Tu sais,
Ouais.
c'est aussi dans cette perspective-là. Et puis, il me semble qu'il y a quelque chose de beau aussi au théâtre aujourd'hui, en ce moment, de se permettre ça, tu sais, pas de créer des œuvres pleines de pathos qui peuvent aussi devenir lourdes.
Larmoyante.
Exact, mais vraiment de se réapproprier du ressenti, du sensible. Moi, il me semble que c'est vraiment ce qui a guidé mon travail avec cette pièce, de me mettre aussi à l'écoute de ce que je voulais créer. J'étais à la recherche avec Larissa Corriveau, l'interprète, vraiment, je me de certaines formes de ressenti, de ce qui allait naître en moi. Et c'était vraiment ça mon guide. Hein. J'étais dans une recherche beaucoup avec Larissa et les autres créatrices autour de moi. Et puis c'était ça, c'était une espèce de c'est pas que j'ignorais où j'allais me rendre, mais il y avait quelque chose comme une grande recherche parce qu'on ne sait pas tout dès le départ. Puis je pense que c'est très bien comme ça. Mais il y avait quelque chose comme, ah oui, quand je vais ressentir cette chose-là, on va y être. Quand ça va être suffisamment juste, quand on va être dans ce type d'incarnation, je sais pas, ça va être quoi, mais il y a quelque chose qui était vraiment très lié effectivement à ce guide du ressenti, qui est une façon aussi, bon, bref, de se mettre à l'écoute, de ressentir quelque chose. Il me semble que c'est ça qui a vraiment été qui a magnétisé mes décisions durant
Ah,
cette
c'est
mise
beau
en
ça,
scène.
magnétiser mes décisions. Et qu'est-ce que vous avez justement décidé de montrer aux spectateurs? C'est quoi? C'est l'histoire d'une animatrice de radio? Qu'est-ce qui se passe dans votre pièce?
Ah, c'est l'histoire d'un moment radio pour une femme qui, un soir, on peut imaginer, se présente à son micro pour animer une émission de radio. Et au moment de débuter son émission, va décider de peut-être faire autre chose, de laisser place à l'inattendu, d'improviser, de commencer un autre récit que celui qu'elle avait peut-être anticipé au départ. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose, pas il y avait, mais il y a vraiment quelque chose pour moi de très excitant dans la radio qui vient de ça. Donc, je suis contente qu'on soit en direct aussi ce matin. c'est plutôt rare maintenant en plus, ouais. mais il y a quelque chose de, qui est comme un condensé de l'existence, puis pour moi, de presque ce qu'elle a de mieux à offrir. Tu sais, c'est très, c'est une petite durée, la radio. Il y a un début, il y a une fin. Entre les deux, qu'est-ce qui va se passer? Si on reçoit un invité, on va poser certaines questions, on va se mettre à son écoute. On ne sait pas exactement quelles seront les réponses. On ne sait pas quel genre de relation va se tisser ou ne se tissera pas, d'ailleurs. Donc, moi, pour moi, il y a une espèce de... À la radio, c'est une prise de risque constante. Il y a quelque chose... C'est une petite aventure. Et puis, je vois un peu... j'ai voulu en faire... c'est important que ça se déroule à la radio, évidemment. Puis, on commence à savoir que j'ai une grande passion pour la radio. Mais pour moi, c'est aussi une espèce de... La radio, c'est une espèce de... C'est le lieu d'une expérience vitale, d'une expérience beaucoup plus profonde. Donc, on peut aussi... C'est important que ça se déroule à la radio, ma pièce de théâtre, pour le contexte de cette femme qui arrive, bon, raconter cette histoire. Mais j'y trouve aussi quelque chose comme un certain rapport au monde, hein, un certain rapport à l'inattendu, à l'imprévisible. Puis il y a un choix en faveur de ces choses-là aussi, de dire, ben, c'est beau parfois de dévier, de bifurquer de nos chemins. C'est peut-être là où on se retrouve le mieux. On a souvent vu aussi, c'est une pièce évidemment qui porte sur le désir, hein, et le désir pour quelqu'un d'autre dans ce cas-ci, mais aussi plus généralement, je pense, le désir d'une vie intense, d'une intensification de son sentiment d'existence. On a souvent vu le désir comme une, peut-être en tout cas, selon une posture plus morale, comme une fuite de soi. Moi, j'avance sans savoir, mais en tout cas en poussant aussi l'hypothèse que ça peut être une façon de se retrouver. De se retrouver plus près de soi que ce qu'on avait anticipé au départ dans cet égarement absolu, pour reprendre la formule de Quignard. Il y a aussi quelque chose comme une façon de sortir de soi qui est belle, qui n'est pas du tout pour moi quelque chose de qu'on pourrait condamner comme une déviance. Il y a quelque chose aussi d'une rencontre, en tout cas, avec soi possible. Et j'ai souvent, en tout cas, en écoutant aussi... Laura Adler, j'ai souvent, je pense à travers mon écoute de la radio, ma pratique de la radio, fait l'expérience aussi de cette chose à la radio, de cette rencontre. Hein, ce matin, on est là dans le studio, on discute, on se met à l'écoute l'une de l'autre. Il y a quelque chose de très intense dans cette rencontre radiophonique où on accepte aussi ce jeu-là. Bien sûr, la rencontre radiophonique n'est pas, pas liée au désir amoureux forcément, mais il y a quand même quelque chose comme... un rapport très particulier à l'autre mm-hmm. dans le cadre
à
d'une entrevue.
À l'autre et aussi à l'autre qui est en train de nous écouter.
Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Exact. Mm.
Alors, cette animatrice-là décide de faire autre chose ce soir-là?
Exact. Elle se lance. Donc, elle prend le risque. Elle risque de s'aventurer dans un récit qu'elle confie finalement à ses auditrices et auditeurs. Qui va être le récit d'un désir qu'elle a éprouvé pour un homme qui est très différent d'elle. Donc, c'est comme ça, elle avance dans la parole et dans la pensée. J'ai pas voulu créer une pièce anecdotique, c'est-à-dire où il s'agissait seulement de relater un épisode amoureux jusque dans ses moindres détails. J'ai voulu plutôt voir ce que le désir fait à la pensée. Je pense qu'on a souvent dissocié les affects ou plutôt la pensée et le corps, comme si c'était deux choses. Évidemment, en philosophie, on connaît bien cette distinction puis ce dualisme. Mais je pense qu'on se met à penser véritablement quand on est très affecté dans son corps. Il y a quelque chose justement une étrangeté qui survient dans notre corps, quelque chose qu'on ressent qui n'était pas là au départ et qui forcément nous met en marge dans notre propre pensée. Donc, j'ai voulu mettre au micro une femme qui pense. Donc, bien sûr, le récit amoureux est important. Et je pense qu'il y a plusieurs histoires, plusieurs couches à ce récit-là. Mm-hmm. Et donc, j'ai aussi voulu mettre au micro une femme qui pense à qu'est-ce que ça lui a fait, ce désir pour cet homme si différent d'elle, qu'est-ce que ça a ouvert dans sa vie, mais aussi qu'est-ce que ça a ouvert dans sa vie, pourquoi, qu'est-ce que le désir, tu sais, qui se pose ce type de questions. Voilà, j'en perds.
Est-ce qu'il y a de l'interaction? Est-ce que c'est une émission de tribune téléphonique? Ou c'est quoi le genre d'émission qu'elle anime? Comment elle s'appelle, cette animatrice?
Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. On l'a toujours surnommée Elle. Mais ah, Elle, non. Pas Elle. Elle, selon, je ne sais pas, au départ, c'était là, même avant Larissa. Elle, je ne sais pas. Et donc, elle n'a pas vraiment de nom.
Alors, quand elle ouvre son émission, elle dit bonjour, ouais, sans se nommer. Est-ce qu'elle a un titre? Est-ce que l'émission a un titre?
Et oui, c'est L'écoute d'une émotion. Ah, donc, c'est le titre de son émission.
L'écoute d'une émotion.
Exact. Donc, c'est le titre de son émission. On ne sait pas grand-chose d'elle. Puis non. Moi, je trouve ça bien aussi. Je trouve que, en tout cas, c'est un choix délibéré. Je pense qu'on passe un moment en compagnie de cette femme-là. Et c'est aussi ce mystère qui nous attire puis qui nous tient à l'écoute de ce qu'elle est.
Mm-hmm. Je me demandais, ouais, c'était quoi le but d'en faire une pièce de théâtre plutôt que, je sais pas moi, mm-hmm, du théâtre radiophonique, mm-hmm, ou un balado?
Ouais. Très tôt, la forme théâtrale s'est imposée. C'est pas du tout une pièce de théâtre sous forme de balado ou un balado théâtre. Moi, j'avais envie justement qu'on voit ce que ça a aussi de vivant, puisque la radio fait au corps d'une certaine manière, qu'on soit témoin de ce moment particulier, qu'on puisse voir, qu'on puisse y accéder. On dit souvent que la radio, c'est le travail imaginaire, que c'est beau parce que justement, on n'a pas accès au visage des gens, forcément, on n'a accès qu'à leur voix, ce qui est extrêmement particulier, singulier et pour moi absolument joyeux et ravissant. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant justement à se pencher sur ce lieu qui est toujours fermé, c'est-à-dire fermé auquel on n'a pas accès. Donc je trouvais ça bien de dire ben il y a quelque chose de profondément vivant et peut-être même de profondément théâtral dans le médium radiophonique.
Et vous en êtes convaincue?
Oui, absolument. Ouais. Je trouve qu'il y a
ça donne
beaucoup de choses à voir.
Ça donne sur la scène? Est-ce qu'on est dans un studio radio? Comment ça, mm-hmm, fonctionne? On air, est-ce que ça apparaît
en
quelque part?
Il y a quelques signes. On sait très bien qu'on est à la radio. J'ai voulu quand même donner quelques signes de ça. C'est important. C'est sans exagération, disons. Ça reste assez sobre.
Mais on comprend bien, le spectateur comprend bien où
sûr
il est, avec qui il est.
Exact.
Et est-ce qu'il est aussi un peu avec vous, Marie-Laurence Rancourt, parce que vous avez une expérience quand même assez importante en radio. Vous avez travaillé chez RTBF Bruxelles, Radio-Canada, en compagnie de Patrick Masbourian. Mm. C'était à l'époque de la route des vins.
Exact.
Bon, vous avez 20 ans à l'époque. Oui. Est-ce que ça a été vos débuts, ça, à la radio?
Mes débuts à la radio, c'est vraiment la radio communautaire. Et pour ça, j'y tiens.
Oui.
J'animais une émission qui s'appelait L'Alternative économique sur la sociologie économique contemporaine du Québec. Donc, c'était une première incursion dans la radio. Puis ensuite, c'est pour ça que je me suis retrouvée à la RTBF, là, dans une petite cellule de documentaire radio que j'ai ensuite effectivement intégrée Radio-Canada pour ensuite fonder Magnéto, qui a fait beaucoup dans la radio juste avant que la radio se colle aussi au balado, hein, que ces deux choses-là deviennent un peu demeurent très singulières et différentes, mais bon, qu'on connaisse l'explosion que le balado a connue. Pour moi, oui, la radio, ça reste extrêmement singulier. J'y demeure très, très attachée.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes si attachée à la radio?
Je pense que c'est une forme d'écriture qui est très, très sous-estimée et ignorée. C'est pas pour ça que j'y suis attachée, mais je pense que évidemment, on tombe. Moi, je suis tombée très, très amoureuse de certaines émissions radiophoniques. Ça me plaît. C'est un médium de solitaire. C'est un médium qui transmet la pensée d'une manière absolument surprenante. C'est un médium aussi de l'imprévu, justement, de l'imprévisible, de l'improvisation,
surtout
de l'inattendu.
Ça se passe en direct.
Absolument. J'ai vécu des grands moments radio comme des moments de vie. Ça me fait le même effet que le cinéma, moi, la radio, ou que la littérature. Je pense que c'est une forme, effectivement, de littérature qui est un petit peu restée dans l'ombre parce qu'elle a été beaucoup rapatriée du côté des communications et des médias. Mais ça reste, moi, quand je parle de la radio, c'est un imaginaire pour moi, c'est de la littérature. Je parle pas des bulletins de nouvelles d'information, forcément, là. C'est très important, par ailleurs, c'est pas ce que je dis, mais il y a toute une façon de conduire la radio, puis une pensée de la radio. Moi, étant formée en sciences sociales, en sociologie, en anthropologie, je me suis beaucoup aussi intéressée à la pensée de ce médium-là. Puis j'y puise encore beaucoup, même dans mon écriture théâtrale ou, une écriture de certains projets en cours d'écriture. Reste que la radio n'est jamais bien loin. Puis je pense que c'est parce que c'est un médium assez complet pour moi, en tout cas. Un médium qui réunit de la pensée, des voix, des intelligences, qui procure des rencontres, qui a un certain goût pour le risque, l'aventure. Je trouve qu'il y a quelque chose comme un équilibre assez parfait et joyeux dans, mm-hmm, ce médium-là. Mm.
Vous en parlez avec beaucoup, beaucoup d'intelligence et de passion. Est-ce que c'est parce que vous n'en faites pas, là, de radio? Vous écrivez une pièce qui parle de radio, mais est-ce que vous aimeriez en faire davantage ou peut-être même devenir directrice des émissions un jour?
Ça peut faire partie de mes rêves. J'ai beaucoup de rêves, ça peut en faire partie. C'est sûr que c'est quelque chose, moi, qui me stimule et qui me manque aussi de ne pas en faire suffisamment.
Qu'est-ce que vous aimez quand vous en faites de la radio, là? Qu'est-ce que vous aimez?
J'aime tout. J'aime accueillir, j'aime voir les gens arriver, s'installer au micro et embarquer dans ce jeu-là. C'est mon moment préféré, c'est le tout début. Ça, je trouve ça très vertige. Il y a un petit vertige, puis c'est bien, ça nous tient comme ça tout au long de... Je parle bien sûr là, des émissions où il y aurait des interviews, où on peut faire des interviews. Et j'aime... J'aime sentir qu'on est là, on n'est pas ailleurs, qu'il y a quelque chose comme un présent très dense, très fort.
Et comme auditrice aussi.
Oui. J'aime sentir ça aussi.
Au quotidien.
Oui, j'aime sentir ça. J'aime sentir que les choses ne sont pas prévues d'avance. J'aime sentir aussi qu'on fait les choses un peu mine de rien. J'aime aussi beaucoup les émissions, par exemple, de Marie Richeux, où on a toujours l'impression que la question est volante, qu'elle n'était pas prévue.
Marie Richeux, elle est où?
C'est une émission qui s'appelle « Par les temps qui courent » à France Culture. Donc, c'est une émission d'affaires culturelles. C'est une quotidienne. Donc, mais voilà, on a l'impression vraiment que c'est un moment vivant. Que ça pourrait à tout moment s'arrêter, reprendre. Il y a quelque chose qui bat à l'intérieur du studio.
Il y a quelque chose qui se passe.
Oui, il y a quelque chose de vraiment vivant. Mais c'est beaucoup... et ce sont des femmes qui pensent. Et moi, ça m'émeut. Ça m'émeut d'entendre des femmes comme ça au micro qui... C'est aussi ce que j'ai voulu faire en mettant une femme au micro. Une femme qui pense. Une femme qui pense... qui ne se dissocie pas non plus d'une certaine vie dans le monde, qui n'est pas juste dans la pensée, hein, qui vit des choses. Il faut vivre des choses pour pouvoir penser, j'en suis convaincue, mais qui se demande aussi finalement, peut-être en filigrane, comment être l'autrice de ses jours, comment mener une vie par-delà la répétition de ses jours, par-delà certains standards, par-delà certaines injonctions, à mener une vie un peu... je sais pas, un peu stable ou en tout cas organisée ou dans la poursuite et l'élévation. Est-ce que c'est possible aussi de vouloir recommencer, de vouloir redébuter des choses, de bifurquer? Est-ce qu'on peut changer de place comme ça? Je trouve que c'est des questions importantes pour les femmes aussi. Mm-hmm.
C'est là que le désir peut intervenir aussi.
Absolument.
Et Marie-Laurence, l'équipe de conception est majoritairement composée de femmes. C'est une volonté de votre part ou c'est un hasard?
Non, je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que c'est bien de travailler avec des femmes. Et puis, il y a des acolytes de toujours qui sont aussi des hommes. J'ai formé une équipe de complices qui partage une certaine vision du travail. Et puis, j'étais heureuse de constater que mes alliances allaient vers des femmes aussi.
Et Larissa Corriveau est entourée quand même. Là, mm-hmm. Je disais des noms, Jacinthe Bellemare, Vicky Bertrand, Marie-Annick Blais, Lily Morin-Prévost et Ève Saint-Louis. Qu'est-ce qu'elles font, ces femmes-là, autour de Larissa Corriveau?
C'est une surprise,
Mais j'avais quand même les noms.
Oui, voilà. Oui, bien sûr, vous n'avez rien dévoilé. Voilà, c'est une surprise. On va laisser planer un petit peu le suspense. Mais effectivement, il y a d'autres femmes qui accompagnent la voix de Larissa.
Et après, ben là, vous êtes là-dedans jusqu'au cou, dans l'écoute d'une émotion. Votre travail est fait. Vous l'avez écrit, vous l'avez mis en scène, et ça part demain, là.
Ça commence demain.
Est-ce que vous êtes excitée? Qu'est-ce qui vous habite comme émotion, justement, à l'approche de la première?
Une grande joie. Je suis évidemment, comme tout le monde, un petit peu nerveuse à l'approche de quelque chose qui commence, dont on ne sait pas exactement ce que ce sera. C'est un matériel vivant. J'ai bien sûr, effectivement, le travail est fini, mais il ne s'arrête vraiment jamais. Mais je suis vraiment dans une grande, grande joie, une grande reconnaissance aussi quant au Théâtre Espace Go qui m'accueille. Moi, c'est une première mise en scène, c'est un premier texte et je me retrouve dans une maison absolument exceptionnelle. Donc, j'ai une grande joie aussi de voir comment on a monté cet objet, cette création tout ensemble. C'est très, très joyeux, ce qui m'anime.
Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait beaucoup de monde de la radio? Aussi, j'imagine, des amoureux de la radio dans la salle. Ça va attirer certainement cette clientèle-là.
Oui, j'aimerais que ce soit un spectacle, effectivement, qui attire des gens de radio, mais j'aimerais aussi que ce soit un spectacle très populaire. J'ai l'impression que le désir, c'est quelque chose d'assez commun, qu'on en ait éprouvé, on en éprouvera toutes et tous dans sa vie, si on n'en a pas encore éprouvé. Et puis, je pense que c'est quelque chose, effectivement, qui touche, qu'il y a quelque chose de très, très commun dans cette notion. Donc, j'aspire à ce que les gens, justement, se joignent à nous à Espace Go j'ai l'intuition, en tout cas, peut-être l'impression que ça peut quand même, ça peut toucher chacun, quelque part.
Il y a quelque chose dans le désir. Oui, parce que le désir, c'est humain.
Oui, c'est ouais. quelque chose, oui.
L'émotion aussi, l'écoute d'une émotion. Donc, c'est à Espace Go, on le redit, à partir du 9 jusqu'au 20 mai, avec peut-être des supplémentaires, qui sait. Puis ça sera présenté, cette pièce sera présentée un peu plus tard, au cours de l'automne, au Centre national des arts. Marie-Laurence Rancourt, vous me parliez de votre passion de la radio. Vous avez évoqué des animatrices européennes, françaises. Est-ce qu'il y a, sans nommer nécessairement, c'est comme vous voulez, mais est-ce que vous êtes aussi une auditrice de ce qui se passe au Québec, au Canada, en radio?
Oui, bien sûr. Là, comme tout le monde, j'écoute les...
À part Canal M, là, qu'est-ce que vous écoutez?
Je suis pas... c'est vrai que je suis quand même beaucoup connectée, je dois le reconnaître, à France Culture, mais j'ai beaucoup écouté les radios communautaires, moi, tu sais, pour découvrir de la musique.
Oui.
Puis j'ai la chance aussi...
curieuse.
Oui, et puis j'ai la chance de recevoir de temps à autre des projets qui s'élaborent ici, plutôt de documentaires, donc de tendre l'oreille aussi à des gens qui donnent davantage... côté de la radio plus artistique. Et c'est des beaux projets, il y a des belles choses, il y a des grands créateurs, des grandes créatrices ici. Donc voilà, je tends l'oreille quand on m'envoie un lien pour écouter quelque chose. Mais,
votre émission de rêve, ce serait laquelle?
Une émission d'entretien.
Qui n'est pas nécessairement faite encore.
Ouais, ouais,
ah
ouais.
Oui, une émission d'entretien.
Une émission assez classique d'entretien, c'est-à-dire...
Comme Laura Adler le faisait, ou le fait.
Absolument, mais avec une grande liberté. Une émission d'entretien, mais avec une grande liberté et du temps. Ce serait ça, mon rêve.
Le temps.
Ouais.
C'est voilà. un grand
lieu. Aussi,
en
c'est...
direct?
En direct. Ouais.
Bien, merci.
Merci à vous.
J'espère
c'est
que vous allez revenir, Marie-Laurence Rancourt, parce que c'est toujours passionnant de parler radio avec quelqu'un qui aime tant ce médium. Et le théâtre aussi, on l'aime. L'écoute d'une émotion avec Larissa Corriveau. Est-ce que c'est quelqu'un... Là, j'ai tout le temps l'impression qu'on se quitte, mais j'ai plein de questions. Larissa Corriveau est-elle aussi une passionnée de radio comme vous? Est-ce que de ce... mettre dans la peau d'une animatrice, ça a été un défi pour elle, malgré que c'est une excellente comédienne?
Oui, oui. Larissa, c'est une grande... c'est une femme très curieuse. Je pense qu'elle est très sensible, oui, à la radio. Oui, elle est très sensible.
Nous irons découvrir tout cela à l'Espace Go. Merci encore, Marie-Laurence.
Merci à vous.